Bonjour ou bonsoir à toutes et tous. Nous nous apprêtons à célébrer Pâques. Pâques est une fête biblique qui consiste notamment à commémorer la mort et la résurrection de Jésus. Je serais curieux de lire des statistiques sur la connaissance que nos contemporains ont de la question. Savent-ils pourquoi Jésus est venu? Pourquoi il est mort sur la croix? Je suis même persuadé que bien des gens qui se disent chrétiens ne sauraient pas trop que répondre si on leur posait la question. La semaine dernière, nous avons étudié la dernière parole prononcée par Jésus avant d'expirer sur la croix. J'invite l'auditeur qui n'a pas écouté cette prédication à le faire grâce à nos archives pour en savoir plus sur le pourquoi de la croix, sur la nature de la mort de Jésus immolé pour nos péchés. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur un discours de Jésus dans lequel il aborde son sacrifice sous un autre angle. Dans l'évangile selon Jean, au chapitre 10, Jésus fait trois comparaisons, comme autant de brèves paraboles, en quelque sorte, très proches quant au sens et au contexte. Toutes trois se situent dans une bergerie, et dans chacune d'elles, les disciples sont comparés à des brebis. Jésus, quant à lui, se compare tour à tour au portier, à la porte et au berger. Lisons le début de la troisième parabole de la bergerie, où Jésus se définit comme le bon berger. Évangile selon Jean, chapitre 10, versets 11 à 15. C'est donc le passage sur lequel porte la prédication de ce jour. Moi, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas berger, et à qui les brebis n'appartiennent pas, voit venir le loup, abandonne les brebis et s'enfuit. Et le loup s'en empare et les disperse. C'est qu'il est mercenaire et qu'il ne se met pas en peine des brebis. Moi, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. Voilà donc pour la lecture de la parole de Dieu. Jésus donne sa vie parce qu'il est le bon berger, qui se met en peine des brebis, qui les aime, et qu'il y a un loup contre lequel les brebis doivent être protégées. Cette parabole présente donc trois personnages et un groupe, le bon berger, le mercenaire, le loup, les brebis. Le seul personnage clairement identifié, c'est le bon berger. Facilement identifiables sont les brebis, elles suivent le bon berger. Ce sont donc ceux qui suivent Jésus, les chrétiens. Il est moins aisé d'identifier les deux autres personnages. Un mercenaire, c'est un salarié qui n'a pas d'autre motivation que l'argent. Ce qui ne veut bien sûr pas dire qu'un pasteur qui reçoit un salaire afin d'exercer son ministère à plein temps, tout en ayant la possibilité de nourrir sa famille, est visé par cet enseignement de Jésus. Au contraire, la révélation chrétienne explique qu'il est légitime pour un prédicateur de l'Évangile de recevoir un salaire en rétribution de l'exercice de son ministère. En 1 Corinthiens 9, versets 13 à 15, Paul écrit, donc l'apôtre Paul écrit, « Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple, que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel ? De même aussi, le Seigneur a ordonné que à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. » Pour moi, je n'ai usé d'aucun de ces droits. Ainsi, Paul a préféré exercer son apostolat gratuitement en travaillant par ailleurs, comme il explique en Actes 18.3, où il se définit comme fabricant de tentes. Les tentes étant en cuir, le terme utilisé à l'époque, peut aussi désigner plus largement un maroquinier. Donc, enfin, Paul était maroquinier, manifestement. Mais Paul reconnaît qu'un prédicateur a le droit de recevoir un soutien financier, et que les chrétiens, alors si on lit le passage plus complet, à partir du verset 11 et puis jusqu'à 2-3 versets suivants, Paul reconnaît que les chrétiens ont le devoir de faire profiter ceux qui les nourrissent spirituellement de leurs ressources matérielles. Ce n'est donc pas tout ministre financièrement rétribué que Jésus traite ici de mercenaire. Le mercenaire de la parabole, ce peut être l'imposteur qui prend la tête du troupeau avec pour seule motivation le salaire ou toute autre forme d'intérêt personnel, et non par amour pour Dieu et pour le peuple de Dieu, et surtout sans esprit de sacrifice. D'une part, il n'est pas normal de voir des prédicateurs toucher des salaires mirobolants, de l'argent qui pourrait être utilisé à bien d'autres choses beaucoup plus édifiantes, vivre dans le luxe et utiliser leur notoriété par vaine gloire. Dans le même ordre d'idées, l'accès à un ministère ne doit pas servir à guérir des complexes ou à soigner une mauvaise image de soi. Ce n'est pas le but et de tels problèmes doivent être réglés avant l'accès au ministère. Et d'autre part, il n'est pas normal de voir des familles pastorales manquer de tout, quand ce n'est pas crever de faim. Alors évidemment, il y a un juste milieu à trouver. Ceci dit ici, Jésus n'oppose pas le mercenaire au fidèle ministre de l'Évangile, au pasteur digne de ce nom. Mais il oppose en fait le mercenaire à lui-même. Donc le mercenaire, ce n'est pas celui qui n'est pas finalement le mauvais pasteur, à y regarder de plus près, mais c'est celui qui prend dans l'Église la place du Christ. Alors qui serait ce mercenaire qui prendrait la place, non pas d'un pasteur sincère, mais bien plus du Christ? Quelqu'un qui s'arrogerait le titre, voire la fonction de chef de l'Église. Alors il faut donc se méfier de tout système religieux fondé sur l'être humain, que ce système soit catholique, romain ou protestant, ou de toute autre obédience. À y regarder de près, il n'y a pas que le pape à se prendre pour le vicaire du Christ. Les ministères de pasteurs, d'évangélistes, de diacres sont institués par la parole de Dieu. À cet égard, on peut lire par exemple Éphésiens 4:11. Mais n'oublions pas que ministre signifie serviteur, et qu'un serviteur reste humble et s'efface devant son maître. Comme l'a dit Jean-Baptiste en Jean 3:30, il faut qu'il croisse et que je diminue. C'est à l'amour de Dieu que nous devons, en tant que chrétiens, d'être conduits par le bon berger, celui qui nous connaît par notre nom, ce qui, dans le langage de la Bible, signifie qu'il nous connaît jusqu'au tréfonds de notre personnalité. Si bien que s'il nous aime, et il nous aime, c'est en connaissance de cause, sans que nous puissions lui cacher quoi que ce soit, et sans condition. Jésus nous aime et désire nous conduire, quoi qu'il arrive. Il ne nous repoussera jamais, et nous ne pouvons rien faire qui l'empêche de nous aimer. Ceci ne signifie bien sûr pas qu'il accepte que nous nous conduisions n'importe comment, mais que, quelles que soient nos chutes, il est prêt à nous accueillir à nouveau si nous revenons à lui, dans un repentir sincère.